Jusqu'au week-end du 20 août, je vous propose de vous rafraîchir la mémoire en vous offrant quelques-unes de vos émissions préférées, issues de nos archives.
La marche du monde. Valérie Nivelon.
C'est le second épisode de notre documentaire proposé par Théa Olivier, Nos guerres du Liban.
Le Liban, c'est un lieu auquel tu appartiens, où tu es né, auquel tu tiens. C'est pourquoi les combattants ont sacrifié jusqu'à leur vie. Ils pensaient que leurs actes étaient justes. Et un de ces combattants, c'était moi.
Nous sommes à Beyrouth, une ville coupée en deux par la guerre civile. Entre 1975 et 1990, deux camps s'affrontent. Beyrouth Est, c'est-à-dire les chrétiens du front libanais et les forces libanaises, contre Beyrouth Ouest, où se trouvent les mouvements arabistes, musulmans et palestiniens. Nombre d'adolescents ont pris les armes à l'image de leur famille, de leur quartier, de leur communauté religieuse. Ils grandissent dans un conflit qui s'installe, où les combattants se professionnalisent et deviennent des miliciens.
C'est à bord des premiers transports de troupes israéliens sur lesquels nous sommes juchés que l'armée israélienne commence à nettoyer les abords des quartiers ouest de Beyrouth qui cette nuit ont été pris sous le feu de l'artillerie israélienne et des premières troupes d'assaut. Ces transports de troupes sur lesquels nous sommes juchés sont chargés maintenant de nettoyer ces nouveaux secteurs dans lesquels l'armée israélienne s'est engagée. C'est la preuve que l'armée israélienne et ses premiers soldats sont bien maintenant à l'intérieur de Beyrouth Ouest.
L'opération militaire israélienne a démarré le 6 juin 1982 dans le sud du Liban pour combattre les Palestiniens, favoriser la victoire des forces libanaises et celle de leur chef, Bachir Djmaïel. 14 juin, les soldats de Tsahal entrent dans Beyrouth. Ziad Saab a déjà 22 ans. Il est responsable de la section militaire du Parti communiste et soutient la cause palestinienne.
C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser des questions et à douter. Ce qu'on fait, est-ce que c'est juste? Ou bien, est-ce qu'on doit arrêter la guerre civile? Je me suis posé ces questions, mais je n'avais pas de réponse. Le Parti communiste a décidé de continuer la guerre civile libanaise. Et moi, j'étais bon pour obéir aux ordres.
The orders coming from up.
Ça venait d'en haut,
central office
du bureau central du Parti communiste.
So, I'm not thinking that 1982
alors, is the je ne pense pas que 1982 soit le seul moment où je me suis posé ces questions.
But in 1982,
mais en 1982, les Israéliens occupaient
somehow,
le Liban.
And it was my priority to fight the Israelis.
Et c'était ma priorité de combattre
so,
les Israéliens.
We throw it away.
Donc j'ai arrêté de me poser des questions.
How to resist the Israelian
Il fallait résister soldiers. Aux soldats israéliens.
Les Israéliens envahissent le Liban. Le 1er août 1982, l'aviation et les chars assiègent Beyrouth pour déloger l'OLP et son leader Yasser Arafat des camps palestiniens de Beyrouth Ouest. Bachir Djmaïel, le chef des forces libanaises, est élu à la présidence de la République le 23 août. Il tend la main aux leaders musulmans et prône la réconciliation nationale.
Il était jeune, 34 ans. Il était intelligent et volontaire, ambitieux et inquiétant tout à la fois. Élu, voici 23 jours président de la République libanaise, il aura eu juste le temps de savourer l'ivresse de la victoire. C'est dans 9 jours que Béchir Djmaïel devait devenir officiellement président du Liban. Sa mort hier dans un attentat risque fort de rallumer très vite les feux mal éteints de la guerre civile. Maurice Werther.
L'attentat a causé d'autant plus d'émotions et d'inquiétudes que depuis le 17 août, depuis la fin des combats à Beyrouth, on commençait à se réaccoutumer à la paix. Donc à 16h, la radio des phalanges, la voix du Liban, annonçait l'attentat et décrivait les résultats de l'explosion, 3 étages effondrés, sans parler de victimes. À minuit, M. Vatzan, Premier ministre libanais, annonce la mort de M. Djmaïel.
Quand Bachir Djmaïel est tué à ce moment, and of course I am speaking now about my feeling.
Quand Bachir Djmaïel a été tué, et bien sûr je parle de mes sentiments à cette époque, j'ai pensé que c'était une bonne chose qu'un de nos présidents, soutenu par l'armée israélienne, soit mort. Mais pour nous, au même moment, il n'y avait aucune raison d'être heureux. Beyrouth. Car les Israéliens venaient d'entrer dans Beyrouth.
Big massacre in Sabra and Shatila.
Il y avait aussi eu le grand massacre de Sabra et Shatila.
There was no time to think about if we will be happy or not.
On n'avait pas un seul instant pour se poser la question de savoir si on était content ou non. Directement, les Israéliens, avec l'armée du sud Liban, les forces libanaises, sont entrées pour faire le massacre de Sabra et Shatila.
Big catastrophe, actually.
Ça a été une grande catastrophe, un grand massacre.
I can remember the fear in the eyes of the people.
Je me rappelle encore de la peur dans les yeux des civils qui couraient dans les rues
Beyrouth.
Et dans Beyrouth.
What's make us more strong.
Cela nous a encore renforcés et endurcis pour faire encore plus d'opérations militaires contre l'armée israélienne.
L'année 1982 marque profondément les combattants des deux camps. La guerre civile est relancée au Liban. Côté chrétien, Jocelyne Kouheri est l'unique femme à diriger une section féminine dans les forces libanaises. Elle est restée loyale à Bachir Gemayel.
Bachir est unique, exceptionnel. Quoi qu'on dise, il est exceptionnel. Par son charisme, par son sérieux, par sa force. Il communiquait une force aux autres, un courage et une confiance qui est vraiment exceptionnelle.
Et à sa mort, son assassinat, est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez appris la nouvelle ?
Oui, je me rappelle très bien. Effondrement, c'était un effondrement. Soit au niveau de tout le groupe, de la structure de notre résistance, soit au niveau de chacun de nous. Même personnel, parce qu'on était très attachés à Bachir. Et c'était pour nous l'image d'un chef qui est plus que présent, quelqu'un de enraciné dans les cœurs, dans les têtes de nous tous.
Et qu'est-ce que sa mort change à votre engagement ?
À mon engagement, ça n'a rien changé, surtout que moi j'avais grandi au niveau de ma foi chrétienne et au niveau de mon engagement libanais plus conscient et plus approfondi, si je peux dire, à la lumière des valeurs de ma foi catholique. Mais désormais, ça a été plus difficile de tenir, plus difficile de gérer, parce que Bachir, c'était une couverture avec ses majuscules pour nous tous. On s'est senti un peu diminué, si nous pouvons dire, un peu affaibli.
La violence, la haine, a atteint ici son paroxysme. Les récits d'horreur de ceux qui ont réussi à échapper à ce massacre sont terrifiants. Des hommes en armes sont entrés dans les maisons, abattant sans distinction les femmes, les hommes et les enfants. Dans ces deux camps de réfugiés de Sabra et Shatila, à la périphérie de Beyrouth. Des familles emportent les corps disloqués et racontent. Ils nous ont égorgés. Ils ont égorgé des enfants, beaucoup d'enfants.
Pour nous, Sabra et Shatila, c'était un choc terrible. Ça a provoqué une constatation que tout le monde est capable du mal à un moment donné, à un moment de faiblesse et à un moment de grande blessure. Les massacres, c'est les massacres, vous savez. Et le comble, c'est si nous devenons insensibles au massacre. Là, j'ai vu parfois des personnes qui sont devenues indifférentes. À cause de la guerre, à cause du fait d'être si blasé peut-être au quotidien.
Les cadavres jonchent les ruelles étroites de ces deux camps de Sabra et de Shatila, des dizaines de corps, des femmes, d'enfants, d'hommes. Selon certains témoins, le chiffre des victimes pourrait atteindre plusieurs centaines de personnes. Ces traces de balles sur les murs prouvent que ces hommes ont été délibérément fusillés. Un véritable récit d'horreur, sans doute une véritable nuit d'horreur, pour ces habitants de ces deux camps de Sabra et de Shatila.
J'étais dans... Vous savez que je suis dans les renseignements, donc je ne fais pas de terrain. J'étais dans mes bureaux. C'était une décision du commandement. On avait pris cette décision pour honorer la décision du président Jmaïel, décédé, pour faire sortir les Palestiniens armés du Liban. Donc il fallait quand même que des unités libanaises rentrent pour faire sortir les relents ou les restes des milices ou des factions palestiniennes armées dans les camps et en finir, si vous voulez.
Proche de Bachir Jmaïel, Assad Chaftari est alors numéro 2 des renseignements des forces libanaises, dont font partie les Kataeb et d'autres groupes de droite chrétien.
Mais il n'a jamais été question de rentrer pour venger la mort de Bachir ou pour commettre des massacres. Ça, je peux être catégorique à ce niveau.
Et pourquoi alors ça a dérivé comme ça, Samra Chatila?
Écoutez, je crois que tout d'abord, il y a eu plusieurs unités qui sont rentrées dans ces camps. Et puis, je crois que l'erreur essentielle était de laisser rentrer des unités qui appartenaient à un camp qui avait été décapité la veille, dont le chef Jmaïel était tué la veille. On ne fait jamais ça, disons. Bien sûr, c'était un événement grave tout d'abord. On n'avait pas besoin de ça pour notre réputation. On n'avait pas besoin de ça pour notre relation avec les Israéliens. On n'avait pas besoin de ça pour notre relation avec les Américains qui s'étaient énormément améliorés juste avant le décès de Bachir et le choix de Bachir en tant que président de la République. C'était tout nouveau, notre nouvelle bonne relation avec les Américains. Vous savez qu'on était en mauvaise relation avec les Américains, qui voyaient en nous des milices incontrôlables, etc. Donc on n'avait pas du tout besoin de ça, surtout qu'après cette histoire, tout le système israélien a sauté, avec Sharon, la commission Kahan, Begin qui a dû démissionner, etc. Ça a été une révolution en Israël. Voilà, donc ce n'était pas du tout dans notre avantage.
Après Sabra et Shatila, l'ennemi était à nos portes. Ça m'a convaincu, c'était ma guerre. Les Israéliens sont venus jusqu'ici, au Liban, et c'était mes ennemis. Puisque je ne pouvais pas aller les combattre en Palestine, j'allais les combattre ici.
Autre réaction à l'invasion israélienne, celle de Gabi Jamal. Il s'est identifié dès son plus jeune âge à la cause palestinienne. Entraîné dès l'âge de 12 ans dans le camp de Tal el Zatar, avec une branche du Fatah, il a rejoint l'OLP.
D'abord, j'en ai voulu à Arafat parce qu'il nous a laissés. Plusieurs milliers de combattants sont partis avec lui. Arafat a laissé les Palestiniens sans protection. Ils ont été tués comme des moutons. Pas seulement par les forces libanaises, mais aussi par l'armée du sud du Liban qui travaillait avec Israël. Je suis alors devenu fou. J'avais une immense colère et une révolution profonde s'est opérée en moi. Bien sûr contre Jmaïel, mais aussi contre nos groupes et contre Arafat. Au début, Arafat était comme un dieu pour nous. Nous n'étions que des réfugiés sur les registres de l'ONU. Nous n'étions que des numéros. Arafat a fait de nous des combattants. Il est venu et il a fait des réfugiés des combattants. C'était une bonne idée, mais dans la pratique, ce n'était pas une bonne chose. Donc au début, Arafat était mon dieu. Mais plus tard, après qu'il ait quitté le Liban, je lui en ai voulu pour tous les désastres que l'on a connus. Mais on doit apprendre de la guerre. Sabra et Shatila, c'était un grand massacre qui m'a vraiment traumatisé. Mais nous, on a fait la même chose, même si ce n'est pas la même échelle. Mais on a attaqué Damour, une ville chrétienne. On a tué tous les chrétiens qui étaient là, et pas seulement les combattants. Je me souviens, je ne l'ai pas vu, mais on me l'a raconté, j'en suis sûr. Un combattant palestinien avait un bébé de quelques mois seulement dans les bras. Il l'a lancé dans les airs et son partenaire d'armes a tiré sur le bébé. Ils l'ont tué. Si je repense à ce que nous avons fait, nous aussi nous avons massacré. Tout le monde au Liban a fait des massacres. Personne n'est innocent. Je ne peux pas oublier, mais on doit pardonner.
Quel sens avait la guerre ? On ne pouvait pas se retirer parce que nous étions sur les lignes de démarcation. Nous protégions le réduit libre que nous avions pu libérer au temps de Bachir et les régions qui nous attendaient, la population, soit au sud, soit au Chouf, soit... Mais malheureusement, c'est-à-dire, ça a tourné mal.
Les combattants des deux camps s'affrontent depuis 10 ans à travers les milices chrétiennes et islamo-progressistes alliées aux Palestiniens. Et au sein de chaque camp, c'est le temps de la violence et de la division. Ziad Saab, Assad Chaftari, Gabi Jamal ou Jocelyn Kouheri ne savent pas faire autre chose que la guerre.
En fait, j'ai commencé à me désengager en voyant les conflits à l'intérieur. C'est-à-dire quand ça a commencé à fermenter des adversités, des inimitiés à l'intérieur du rang chrétien même, je dis c'est fini, c'est le temps de passer à l'église.
Et vous aviez quel âge ?
J'avais 30 ans. À 25 ans, j'ai été nommée responsable des militantes. À 30 ans, j'ai démissionné avec les filles. Je n'étais pas la seule à partir. Tous les anciens sont partis avec moi. Pas avec moi, mais nous sommes sortis ensemble, nous sommes partis. C'est-à-dire tous ceux qui étaient issus de la même école politique et morale et éthique, si nous pouvions dire. Donc ils n'ont pas pu accepter et gober la nouvelle façon de faire qui a eu lieu. C'était en 85.
Côté palestinien, Gabi Jamal est alors dans le sud du Liban.
Il y a eu beaucoup de combats entre les Palestiniens. J'en ai vu plein à Saïda, dans le camp de Aïn et Eloué. Je n'ai jamais vécu dans un camp, mais j'étais là-bas en tant que combattant. Plusieurs combats ont eu lieu et beaucoup de personnes ont été tuées juste devant moi. J'étais en train de prendre de l'essence dans une station-service. C'était Ramadan. Un homme est passé devant nous. Il fumait. Celui qui attendait avec moi l'a regardé fumer pendant Ramadan. Et il l'a tué. Pour moi, ce n'était plus un combat dans lequel je croyais. J'ai commencé à me poser la question, pourquoi ? À chaque fois que quelque chose comme ça se passait, je ne pouvais plus dormir. Pendant la guerre, ça allait. Mais avec ça, parce que j'ai changé, j'ai commencé à détester la guerre. Je me suis dit que tout cela était mauvais, que je devais être bon et que je ne devais plus faire partie de cela. Et à cette même époque, en 87, j'ai eu mon premier et unique enfant, Ziad. Alors, avec l'existence de mon fils dans ma vie, c'est là que je me suis dit, et si c'était mon fils dans ces combats ? J'ai commencé à changer ma vision de la guerre, totalement.
وقبل للبحر والبيوت لصخرة كأنها وجه بحار قديم.
Nos guerres du Liban, c'est à suivre juste après les infos sur RFI.
Marche du monde, Valérie Nivelon.
suite de la marche du monde à Beyrouth avec Ziad Saab, Gabi Jamal, Jocelyne Kouheri, Ahmad Matar, Elina Sarr et Assad Chaftari, nous revivons 15 années de guerre civile au Liban. Dans les deux camps, les miliciens s'interrogent sur le sens de leur engagement. Impliqués dans le cercle infernal des représailles et de la vengeance, Assad Chaftari seconde Eliou Beika, chef des services de renseignement des forces libanaises, milice alliée d'Israël.
Mais bien sûr, à un certain niveau, on avait senti que notre guerre était finie, si vous voulez, et qu'on était dans une impasse, parce que les Israéliens, dont on espérait la rentrée au Liban pour chasser les Palestiniens, ils avaient commencé à se retirer du territoire libanais. L'armée palestinienne avait été démantelée. Et la guerre, on pataugeait, si vous voulez. Ça ne pouvait plus avancer comme ça ne pouvait plus reculer.
Israël a annoncé son retrait militaire et la Syrie contrôle les deux tiers du Liban. L'OLP se réinstalle dans les camps palestiniens du sud. Les chiites du mouvement Hamal et les druzes s'affrontent pour le contrôle de Beyrouth Ouest. Le Hezbollah préconise la reprise des combats avec Israël. Au cours de l'été 1985, c'est en Syrie, à Damas, que les forces libanaises, le mouvement Hamal et le Parti socialiste progressiste, le PSP, discutent d'une sortie de guerre sous tutelle syrienne.
Beaucoup de chrétiens ont senti que ces négociations n'allaient pas servir la cause des chrétiens au Liban. Et à certains stades, bien sûr, les chrétiens qui détenaient tout devaient composer et devaient aussi donner. Et les chrétiens ne réalisaient pas que l'environnement géopolitique avait changé aussi et qu'il fallait voir les choses différemment. Donc on était accepté par les ex-ennemis, mais on était traité de traîtres parmi les nôtres. Il fallait bien sûr expliquer qu'on avait fait ça dans l'intérêt des chrétiens, etc. Et que le nouveau commandement des forces libanaises, le clan Jarja, était un clan sanglant, criminel, etc. Peut-être parce qu'on était dans les services de renseignement, on avait beaucoup plus de données entre les mains que les autres. Et on savait qu'il fallait négocier, qu'il fallait accepter de donner, bien sûr, quelques prérogatives aux autres. Et pas tout le monde avait compris ça.
Maintenant, je le vois avec un autre regard maintenant, le tripartite. C'était inévitable.
Jocelyne Kouheri, chef militaire de l'unité féminine des forces libanaises jusqu'en 1985, n'est pas prête à partager le pouvoir avec les musulmans.
Inévitable, le fait de devoir trouver une issue pour sortir de la guerre. C'est ça ce qui était inévitable. Parce que voilà, on a fait l'accord tripartite, peut-être au niveau contextuel et au niveau du timing, c'était un peu précoce, mais on y est revenu avec l'accord de Taif. Donc c'était la lignée inévitable de l'issue.
Oui, je le sais pertinemment très bien. On avait été trop vite. On ne pouvait pas demander aux chrétiens du jour au lendemain de comprendre l'accord, les clauses de l'accord, de comprendre les pourquoi de cet accord, etc. C'était un des problèmes. Le second problème était que chacun des trois composantes de cet accord, disons les chrétiens, les druzes et les chiites, espéraient que ce serait l'autre qui ferait foirer cet accord. Et on espérait que ce ne sera pas nous qui ferions foirer cet accord, que ce seraient les autres, le temps d'améliorer cet accord. Donc nous, on était alors à Zahlé, notre QG était à Zahlé, ville chrétienne, mais au sein des ennemis d'hier, qui n'étaient plus des ennemis. Donc les Palestiniens nous avaient refusé, mais les autres commençaient à s'habituer, à discuter avec nous, etc. De nouvelles amitiés s'étaient créées, vous savez, c'est la vie.
Les acteurs de la guerre commencent à envisager une sortie du conflit, ce qui signifie aussi pour Assad Chaftari une remise en question personnelle.
Le changement avait commencé en moi grâce à un mouvement que j'avais rencontré qui s'appelait Initiative et Changement, qui parle du changement personnel pour changer le monde. Je les avais rencontrés à Zahle en 1988. Le changement en moi ne s'est pas passé du jour au lendemain, il continue toujours. Mais c'était une évolution, donc petit à petit j'ai commencé à voir les choses autrement. Je pouvais parler avec les ex-pro-palestiniens, les gauchistes, les musulmans, etc., comme des pères. Je les avais acceptés, j'avais appris à lier des amitiés avec quelques-uns, etc. J'avais appris qu'ils n'étaient pas très différents de nous, qu'on avait beaucoup de choses communes. Ça a été dur au début, mais petit à petit on apprend à qu'on n'est pas les seuls détenteurs de la vérité.
Les 62 députés libanais réunis à Taif, en Arabie Saoudite, depuis 3 semaines, sont parvenus à un accord. Le document d'entente nationale prévoit un nouveau découpage des responsabilités politiques entre chrétiens et musulmans.
L'enjeu, la répartition des pouvoirs entre les communautés dans un Liban qui peut-être échapperait enfin à la guerre. Pierre Serrin.
Aussitôt informé de la signature à Beyrouth, le Premier ministre sunnite Selim Hosse s'est empressé d'accepter un accord qui devrait transférer aux communautés musulmanes le pouvoir détenu par les chrétiens maronites depuis 1943. Quant au Premier ministre chrétien, le général Michel Aoun, il a évidemment rejeté cet accord de Taif. Non pas, dit-il, à cause des réformes politiques, mais parce qu'il n'y est pas fait état avec précision d'un calendrier de départ des troupes syriennes qui occupent le pays.
Pour être honnête, je n'ai pas réussi à arrêter de me battre avant la fin de la guerre.
En 1989,
après les accords de Taif, j'avais de l'espoir, même si je n'étais pas d'accord avec toutes les clauses du traité. Au moins, ça permettait d'arrêter la guerre.
Ziad Saab est alors responsable de la section militaire du Parti communiste dans le sud du Liban. Il a 31 ans. Il combat les chrétiens et les Israéliens depuis son adolescence.
C'était pour moi le bon moment pour me retirer de la guerre. Je suis le responsable du Parti communiste qui a rendu nos armes à l'armée libanaise. Il n'y a pas eu de cérémonie, rien du tout. On a juste retiré nos costumes militaires verts et on a enfilé des vêtements de civil. Et on est rentré chez nous. C'est tout. Je suis retourné à la vie civile. C'était dur. Moi qui n'ai jamais été un civil, je sais comment détruire un immeuble, mais je ne sais pas comment en construire un. Les 6 premiers mois, je suis resté chez moi. Je ne suis allé nulle part. J'ai commencé à bricoler mes propres meubles pour ne penser à rien d'autre. J'ai récupéré les boîtes en bois, des armes militaires, des roquettes. J'ai enlevé les clous. Et j'ai peint ces boîtes pour en faire des meubles et une bibliothèque. C'était d'ailleurs comme ça que j'ai meublé ma maison. J'ai changé leur utilité militaire pour un usage civil. C'est comme ça que j'ai commencé à changer et à penser à quel rôle je pouvais avoir dans la société civile. Après 6 mois, on a été un petit groupe à vouloir monter une ferme. On a acheté des vaches de Pologne, on a ouvert une usine de lait pour faire du fromage, mais ça n'a pas marché. On a continué jusqu'en 1995, mais ça n'a pas marché parce que les Israéliens ont bombardé notre usine. Ils ont tout détruit, mais je ne pensais qu'à une chose, partir du Liban. La chose la plus dure pour ma vie civile, c'est comment trouver ma voie. Même nos relations. J'avais l'habitude de donner des ordres aux autres, pas de parler ni de discuter avec eux. Je donnais des ordres. Fais ci, fais ça. Dans la vie civile, non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut parler avec les autres pour trouver un accord commun. Sinon, ça ne peut pas marcher. C'était dur. Thank you.
I lost something very important for
J'ai perdu une chose importante pour moi jusqu'à maintenant,
bring it back,
quelque chose que je ne peux pas récupérer.
My teenager.
C'est mon adolescence.
So when someone asked me what you lost in the Civil War,
quand quelqu'un me demande ce que j'ai perdu pendant la guerre civile,
really, I don't know.
Je réponds vraiment, je ne sais pas ce que signifie être un adolescent.
I starting from 14 years.
J'ai commencé à 14 ans.
I was responsible.
Et j'avais déjà des responsabilités.
I was used to pressure myself.
Je me forçais à me sentir responsable comme un homme et ne pas avoir de sentiments pour pouvoir agir comme un adulte.
Comment se reconstruire ? Les miliciens des deux camps sont confrontés aux mêmes difficultés. Ils n'ont rien connu d'autre que l'intensité de la guerre.
Nous sommes tous, comme militaires et comme combattants, en dehors de ce que les autres sont en train de vivre. Nous devenons une catégorie à part. C'est un autre quotidien, complètement. Nous sommes en dehors de la vie ordinaire. Et peut-être, ça, c'est ce qui fait que l'esprit de fraternité et de solidarité qui régnait me manque. C'était le manque de l'amitié intense que tu avais au sein du militaire. C'est-à-dire se sentir un corps soudé. Puis quand tu sors, tu es seul avec tes connaissances, avec tes parents, avec tu essaies de reprendre. Vous savez, j'ai compris après, quand j'ai quitté, qu'est-ce que cela veut dire quand on parle de l'amitié des armes. Vraiment, c'est un lien très fort. Et je pense que c'est partout, c'est universel comme expérience. C'est positif à un certain moment, dans un certain sens, mais c'est très risqué dans un autre sens aussi.
Qu'est-ce que ça vous a fait de déposer les armes et de passer à une vie civile ?
C'était douloureux, comme un accouchement, comme un déracinement plutôt. Mais c'était très bénéfique parce que c'était la réintégration dans la société. J'ai beaucoup aimé, je me rappelle très bien, c'est les premiers jours, les premiers mois où je marchais dans les rues en civil et c'était très beau que je passais inaperçu. On ne savait pas qui j'étais et j'ai beaucoup aimé ça. Mais en même temps, il y avait toujours une amertume profonde du mal que j'avais constaté avant de partir.
Et le fait d'avoir moins de responsabilités, d'avoir perdu parce que vous aviez des milliers de femmes sous vos ordres, qu'est-ce que vous avez ressenti ?
Bien sûr, il y a un sentiment de vide, mais le fait qu'il y a mon engagement chrétien, j'avais plein de choses en perspective à faire. J'ai commencé à enseigner dans les écoles la religion chrétienne parce que j'avais terminé ma licence en théologie entre-temps.
Pendant la guerre, vous avez étudié ?
J'ai étudié, oui. Contre vent et marée, chaque jour 5 heures d'études à la fac. C'était bien et à la fin, quand j'ai terminé mes études, j'ai commencé comme enseignante dans plusieurs écoles catholiques. Et j'essayais de me resituer. C'était un défi à relever.
La vie civile est aussi le retour à l'anonymat, à l'individualisme, à la banalité du quotidien. Une expérience partagée par les combattants des deux camps, ceux des forces libanaises et ceux des pro-palestiniens comme les miliciens du Fatah. Écoutez la voix de Ahmad Matar.
Juste une remarque. Nous portions deux étiquettes, militaire et politique. Et c'est probablement l'étiquette politique qui prenait le dessus. Personnellement, j'avais plus un penchant pour le travail d'ordre administratif que militaire. Moi, je jouissais de certains privilèges et ces privilèges n'existaient plus. D'une façon ou d'une autre, cela m'a perturbé. C'est pourquoi je me suis orienté vers l'éducation pendant plus de 5 ans. De 1985 à 90, j'ai enseigné l'histoire de la philosophie dans le secondaire.
Mais est-ce que c'était dur de quitter ses responsabilités au sein du Fatah? Et est-ce que vous aviez un certain regret dans les années 80?
Non, parce que j'ai pris ma décision après mûre réflexion, après l'étude et l'évaluation des conséquences. Non, il n'y avait aucun regret parce que j'ai senti que le groupe avec lequel nous étions alliés avait des objectifs personnels qui n'avait rien à voir avec notre cause. C'est pourquoi je me suis dit qu'il vaut mieux se retirer.
Et donc, quel regard vous avez sur l'engagement que vous avez pris pendant toutes ces années, Ahmad Mattal?
Bien sûr, n'importe quelle expérience, petite ou grande, a deux aspects, négatif et positif. Côté négatif, nous avons exercé la violence envers les autres. En même temps, ils ont fait pareil avec nous. C'est le résultat de convictions basées sur une compréhension différente de l'autre. Côté positif, il y avait toujours une question. Pourquoi tout ceci arrive? Ce sont des gens avec qui nous partageons la même langue, les mêmes traditions, les mêmes caractéristiques biologiques, si on peut le dire ainsi. Alors pourquoi on s'entretue? Cette question, à force de l'avoir répétée, plus l'évolution politique, étape après étape, ça a engendré une compréhension différente de la nature des slogans et des concepts qui existaient par le passé. C'est pourquoi je dis et redis que ce qui se passe en ce moment en politique au Liban, c'est une guerre. Bien que dans cette guerre, les canons et les mitraillettes sont silencieux, c'est vraiment une guerre avec tout ce que cela peut signifier.
Violence militaire, violence politique, les miliciens se sont doublement engagés. En 1991, le Parlement libanais adopte la loi d'amnistie générale d'une guerre civile dont le bilan s'élève à 140 000 morts, 17 000 disparus, 180 000 blessés, des centaines de milliers de déplacés, d'exilés. Pour sa part, Elie Nassar est toujours chrétien et adhérent au parti Kataeb et prêt à recommencer.
Et moi, encore, je suis contre le Taïf. J'espère que maintenant, il y aura un autre Taïf, dans des autres conditions. Moi, j'étais au Yémen, en ce moment, parce que les Syriens, ils ont occupé tout le pays. Et on n'avait plus des armes. Moi, j'étais responsable, chef du frontière du Beyrouth. J'étais sûr qu'ils vont me capturer. Je me suis échappé. J'ai voyagé avec ma famille. Parce que si tu veux la vérité, moi, pendant 15 ans, je venais à la maison chaque semaine, une journée ou deux journées au maximum. Des fois, je reste un mois aux frontières, je ne descends pas. Quand j'ai reçu ma deuxième fille, j'étais aux frontières. Je n'ai pas eu l'occasion d'assister à l'accouchement.
Et votre femme, elle voyait comment votre engagement ?
Elle avait peur, mais elle n'a jamais dit non. Je crois qu'elle est fière de moi. Mes enfants, ils sont très fiers de moi. Quand on va quelque part, la plupart des gens me connaissent. Ils sont fiers des Kataeb, parce que le parti Kataeb, entre les partis chrétiens, c'est la meilleure. Et c'est la plus transparente, si vous voulez. Ils aiment les Kataeb, c'est pour cela qu'ils m'acceptent comme je suis. Nous, on était des combattants, on ne savait pas qu'est-ce qu'il se passe. après, quand on a grandi, on n'avait pas le choix. Prendre les ordres en combat. Mais je suis croyant. Je crois en Dieu. Et j'ai vu beaucoup des amis qui sont morts. Il fallait que je meure, moi. Et j'ai pas mouru. Je crois que Dieu ne me laisse pas.
Et vous êtes prêt à continuer votre engagement jusqu'au bout?
Si quelqu'un pense d'occuper le Liban de nouveau, je suis prêt à le combattre et à même à mourir.
Le culte des martyrs est commun à tous les protagonistes de la guerre civile au Liban et il renforce le sentiment d'appartenance identitaire de chaque communauté. Les mémoires libanaises de la guerre sont multiples.
Oh, je crois que toute la guerre m'a marqué. Toute la guerre. Je peux vous parler de la nuit du décès de Bachir Ismaïl, de la première fois où j'ai vu des corps enflés, si vous voulez. Je peux vous parler d'une fois où j'étais avec ma femme, on allait vers notre bureau après un bombardement syrien et j'ai vu des cadavres déchiquetés, des voitures qui brûlaient avec des cadavres dedans, etc. Je peux vous parler de mon premier Palestinien, peut-être. Le premier Palestinien que j'ai vu face à face et qui avait été arrêté quelque part, que j'ai interrogé. C'était un officier qu'on a fini par relâcher plus tard parce qu'on l'a échangé avec quelques-uns des nôtres qui étaient arrêtés chez les Palestiniens. Bien sûr, à chaque événement, il y a quelque chose qui vous marque comme ça, mais c'est toute la guerre. Elle vous marque en fin de compte. J'ai de bons souvenirs avec les camarades. Vous voyez, on vivait 48 heures par jour, c'était pas 24 heures. Mais aussi, il y avait les risques, les peurs, les douleurs, la joie, l'euphorie des victoires, comme la peine des pertes. Il y avait, c'était un tout, si vous voulez.
Au début de l'année 2000, Assad Chaftari demande pardon à ses victimes dans une lettre publiée dans le journal L'Orient le Jour. Assad Chaftari, celui qui a secondé le chef des renseignements des forces libanaises, Eliou Beika, s'est repenti. Il rompt avec le mimétisme de la violence au sein de l'ONG Initiative et Changement.
Le passage de la vie militaire à la vie civile a été plus facile pour moi que beaucoup d'autres. Quand même, ça a été très difficile de pouvoir être réaccepté au sein de la société, au sein de mes connaissances. Les gens me craignaient, les gens essayaient de s'éloigner de moi. Mais petit à petit, la vie reprend. Les gens s'habituent à vous. Mais je crois que j'ai réussi à le faire grâce à Initiative et Changement. Pourtant, je connais beaucoup de camarades qui n'ont pas encore réussi à franchir le cap. Le regret n'a pas commencé vraiment dès 1988, dès que j'ai rencontré Initiative et Changement. Parce qu'il parlait de comparer ma vie à quatre critères moraux qui étaient l'honnêteté, la pureté dans les intentions et la pureté physique, le désintéressement et l'amour. Petit à petit, le miroir que je fouillais, je me suis mis à regarder ce miroir, j'ai découvert beaucoup de... Malheureusement, de choses d'horreur que j'avais faites, et au niveau intime et au niveau national. Et qu'il n'était pas suffisant de regretter, qu'il fallait se réconcilier avec mon Créateur, parce que j'étais chrétien, croyant, et je le suis toujours, mais aussi me réconcilier avec moi-même. Et petit à petit, j'ai senti qu'il fallait aussi me réconcilier avec les autres et essayer de réparer. Il a fallu l'an 2000. Pour que je fasse ma lettre, ma demande de pardon adressée à mes victimes ou à leurs parents, qui est parue dans la presse d'ailleurs, et aussi de dire que j'avais pardonné à ceux qui m'avaient nui. Ce que je regrette le plus, c'est d'avoir joué le rôle du bon Dieu sur terre, de l'avoir remplacé en tuant au nom d'un Christ qui était venu seulement nous apprendre et nous convaincre que l'amour était la seule solution et qu'on avait une mission une seule chose à faire sur terre, c'était aimer l'autre. Et que Dieu était dans l'autre, pas seulement en nous. C'était cette recherche, cette vision fausse de ma foi que je regrette le plus. Je crois que vous avez compris entre les lignes que c'est le regret d'avoir décidé de la vie et de la mort de plusieurs. C'est tout ça ce que je regrette. Parce que vous pouvez réparer n'importe quelle faute que vous faites, n'importe quel péché que vous faites sur terre, mais il est difficile de ramener à la vie les gens qu'on a tués directement ou indirectement.
Les Beyrouth. من قلبي سلام لبيروت وقبل للبحر والبيوت لصخرة كأنها.
C'était le deuxième épisode du documentaire « Nos guerres du Liban » proposé par Théa Olivier et réalisé par Cécile Pompeani pour la Marche du Monde. Nos guerres du Liban, vous pouvez réécouter les deux épisodes sur RFI.fr, nous écrire à l'adresse suivante marche.monde@rfi.fr, vous exprimer sur notre page Facebook. Cette émission, c'est la vôtre.